Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu et le Saint-Esprit, parce qu'il a fait éclater sur nous sa miséricorde. Mes très chers frères, le temps pascal a pris fin hier. Notre Seigneur, l'œuvre de notre Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie, est parfaite. Le Saint-Esprit a été envoyé, il est venu et il s'est répandu dans les cœurs des fidèles qui l'attendaient pendant ces 10 jours qui ont séparé la Pentecôte de l'Ascension. Désormais, notre foi est parfaite. La connaissance et l'adoration de la Très Sainte Trinité est le sceau de notre foi, et c'est pour cela que, après le temps pascal, après la fête de la Pentecôte, si importante, comme nous l'avons vu le dimanche dernier, il se trouve que l'Église nous fait fêter la Très Sainte Trinité, qui est la fête de Dieu, la fête du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Nous confessons dans cette fête, nous célébrons dans cette fête-là le cœur même de notre foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres articles dans le credo, bien entendu, mais ça veut dire que la confession de la Très Sainte Trinité est en même temps, comme nous allons le voir, en même temps la confession du dogme capital de notre religion, et en même temps, elle est la célébration de notre Dieu, de ce Dieu qui nous a tant aimés et dont nous avons examiné et entendu et admiré et adoré les mystères de la rédemption qu'il a accomplis pour nous durant le temps pascal. Alors nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit, mes très chers frères. Tout d'abord, dans un premier point, un petit peu quelques résumés de doctrine. La doctrine de la Très Sainte Trinité, nous verrons comment on la professe, nous verrons les merveilles de l'état de grâce qui sont associées à la doctrine de la Très Sainte Trinité. Nous verrons aussi rapidement quelques erreurs au sujet de cette notion d'état de grâce. Nous verrons que l'état de grâce est concomitant de l'état de justice et que l'état de justice est le contexte de l'état de grâce. Voilà ce que nous verrons brièvement dans le premier point. Dans un deuxième point, nous verrons des choses plus pratiques, si l'on peut dire. Nous tâcherons de voir comment l'Église, en nous apprenant à prier, nous donne les moyens de bénéficier de la protection de la Très Sainte Trinité, qui est en même temps ce Dieu d'amour qui nous aime tant, qui nous a tant aimés et que nous devons aimer en retour. Nous aurons plusieurs choses à voir, spécialement en examinant l'oraison du premier dimanche après la Pentecôte, qui est en mémoire, toujours en mémoire dans la fête de la Très Sainte Trinité, mais qui est là et qui sera célébrée mardi, puisque il est célébré le premier jour où il n'y a pas de fête. Et en troisième point, nous verrons que Dieu est charité, comment nous l'expérimentons. Nous verrons, dans un troisième point, l'énoncé des maximes du Christ. Ce sera un point très rapide et peut-être le plus important. L'énoncé des maximes, un certain nombre de maximes du Christ, ce qui nous donnera de nous livrer à quelques brèves considérations sur l'état de grâce. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Quelle fête magnifique par sa simplicité que cette fête de la Très Sainte Trinité. Nous n'y pensons pas forcément, nous ne pensons pas forcément à elle comme à une fête aussi caractéristique que Pâques, que Noël, que l'Assomption ou que la Pentecôte, je le donne dans le désordre, mais la fête de la Très Sainte Trinité est une fête qui est une des grandes fêtes de l'année liturgique, et c'est une fête qui passe relativement inaperçue. Pourquoi ? D'une certaine manière, c'est presque une louange que de dire cela. C'est-à-dire qu'il est tellement évident que sans la confession de la Très Sainte Trinité et sans la vie de la Très Sainte Trinité, nous ne sommes rien et nous ne pouvons certainement pas être chrétiens, que dans la mesure où l'on est chrétien, on oublie quelque peu la Très Sainte Trinité en tant que fête. Nous n'oublions pas la Très Sainte Trinité en tant que Dieu, mais en tant que c'est aussi la première fête de la deuxième moitié de l'année liturgique. C'est la fête de la Très Sainte Trinité et l'Église nous propose une oraison qui est très simple mais qui est très instructive. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui dans la confession de la vraie foi nous avait donné de reconnaître la gloire de l'éternelle Trinité et d'en adorer l'unité dans la puissance et la majesté, accordez-nous d'être si fermement attachés à cette foi qu'elle soit toujours notre sauvegarde en toute adversité, par Jésus-Christ, etc. Dieu nous donne, mes très chers frères, de reconnaître Agneau chéri, en latin, reconnaître la majesté, la puissance, et d'adorer la très sainte Trinité. Reconnaître, c'est... Alors, il faut dire quelque chose sur ce verbe, agnoschéré, reconnaître. Reconnaître, ce n'est pas parvenir, dans le contexte de cette oraison, ce n'est pas parvenir à une conclusion qui serait le fruit, au moins partiel, d'une démarche rationnelle. C'est connaître par la foi. Agnoschéré, c'est pas cognoschéré, c'est agnoschéré. C'est-à-dire connaître, nous connaissons, nous savons un certain nombre de choses rationnellement sur la très sainte Trinité, mais contrairement à l'existence de Dieu qui est un postulat de la raison, n'importe qui a une raison, un tant soit peu, qui n'est pas gangrené de mauvaise foi, en vient très rapidement, en regardant la beauté de la création, à l'existence d'un Dieu général. Cette horloge, un horloger doit l'avoir faite. C'est quelque chose qui vient de la raison. Maintenant, la foi en la très sainte Trinité, la connaissance de la très sainte Trinité, est quelque chose qui est purement l'objet de la foi. C'est-à-dire que même si la raison peut comprendre un certain nombre, jusqu'à un certain point, un certain nombre des mystères de la très sainte Trinité, même si la très sainte Trinité n'est pas sans une certaine évidence du point de vue métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui est le summum de la raison, si l'on peut dire, ou même qui la dépasse quelquefois, néanmoins, il se trouve que si ce n'est pas l'Église qui nous enseigne le mystère de la très sainte Trinité, toutes ses preuves, toutes ses évidences, toute sa connaissance ne pourra jamais être nous ne pourrons jamais y accéder. Certains hérétiques ont dit que l'Église était hérétique elle-même parce qu'elle croyait en la très sainte Trinité, alors que dans le panthéon gaulois, dans le panthéon hindou, on trouve aussi un dieu à trois têtes, on trouve une triade de dieux, et effectivement, une fois qu'on a construit cette piste, on s'aperçoit qu'il y a énormément de triades, triades de dieux, triades de concepts, triades de toutes sortes de choses, et nous pourrions même, dans toutes sortes de religions, et nous pourrions même aller dans leur sens en disant, effectivement, il y a le concept de trinité se retrouve, ou de trinité pas au sens chrétien, mais enfin de triade, se retrouve un peu partout, et cela va dans notre sens, parce que ça ne veut pas dire que le christianisme est une religion avec une triade comme les autres, comme une quelconque religion, mais ça veut dire que la foi que le christianisme nous enseigne, nous révèle, la vérité qu'il nous révèle, elle était déjà connue de notre premier père, et elle s'est oubliée avec le temps, elle a toujours survécu sous un ordre ou un autre, sous une forme ou sous une autre, de telle sorte que, ayant perdu la vraie foi, les hommes n'ont pas perdu l'idée d'une triade fondamentale. Mais évidemment, les triades païennes ne sont pas la très sainte Trinité. La très sainte Trinité, on ne peut la connaître, et on ne peut la connaître un seul Dieu, vrai Dieu, et être en lien avec elle, avec ce Dieu vivant et vrai, que par l'Église, dans l'Église, en dehors de l'Église, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de salut, il n'y a que des amorces qui permettent de rentrer dans l'Église. Tout se trouve dans l'Église. Gloire à Dieu pour l'Église qui est le lieu où nous pouvons connaître et aimer et être aimé de la très sainte Trinité, même si Dieu aime aussi ceux qui sont en dehors de l'Église d'un amour de création, de créateur, et bien sûr s'il aime les élus qui sont déjà dans son éternel présent face à lui, il les aime aussi dans leur état d'enfant du diable, d'esclave de Satan. Je ne dis pas que Dieu n'aime personne en dehors de l'Église, mais s'il aime quelqu'un efficacement en dehors de l'Église, il fera de lui un membre de l'Église. Voilà ce que cela signifie. Donc, la très sainte Trinité, Dieu, en tant que très sainte Trinité, nous est révélé par l'Église qui est notre mère. Voilà quelque chose de fondamental. Il se trouve que nous avons dit que dans les fausses religions, il y a des vestiges de la très sainte Trinité. Donc, n'en parlons plus, c'était pour mémoire. Il y a, nous dit notre Père Saint-Augustin, et puis tous les Pères, dans la création, non plus simplement des vestiges, mais des symboles de la très sainte Trinité. Ainsi, notre Père Saint-Augustin voit dans les trois puissances de l'âme, la mémoire, l'intelligence, la volonté, qui sont une seule âme, l'image, une des images les plus parfaites de la très sainte Trinité. On ne peut pas dire « ma mémoire fonctionne différemment que mon intelligence et ma volonté fonctionne Alors, l'homme déchu qui est éclaté, effectivement, on fait l'expérience d'une certaine discordance dans tout cela. Mais l'homme normal, disons, considéré en état de grâce ou dans l'état état original, il a une seule âme, il a une âme, on a une âme par personne, c'est déjà suffisant, et il se trouve que cette âme, en quelque sorte, on peut trouver en elle la mémoire, la raison, la volonté. Mais il n'y a qu'une seule âme, avec trois choses qui sont très distinctes. Ce n'est pas la même chose que la très sainte Trinité. Dieu n'est pas un seul Dieu avec trois aspects, etc. Ça serait une hérésie de le dire, et il ne le faut pas le dire. Mais il se trouve qu'il y a dans la nature une certaine image de la très sainte Trinité, un petit peu comme quand on dit que dans le lion, on a l'image de la majesté divine. Personne n'a jamais dit que le lion était divin ou que Dieu était un lion. Mais il y a quelque chose de cela, vous voyez, et ainsi de suite. Nous n'allons pas trop approfondir parce que ce sont des choses que l'on peut trouver dans le catéchisme assez facilement. Je vous renvoie donc au catéchisme. Il y a dans l'Ancien Testament, alors que la doctrine de la très sainte Trinité n'était pas révélée aussi clairement et ne pouvait pas être révélée aussi clairement que depuis l'incarnation du Fils éternel de Dieu, la promesse faite à Abraham, il se trouve que néanmoins dans l'Ancien Testament, il y a des figures de la Trinité et il y a même une manifestation de la très sainte Trinité. Tous les pères sont d'accord pour voir dans les trois anges qu'Abraham a accueillis sous sa tente et qu'il a régalé d'un festin, il y a là une manifestation de la très sainte Trinité. Donc nous n'approfondirons pas ces choses parce que nous avons encore d'autres choses à voir, mais souvenez-vous des trois anges d'Abraham, souvenez-vous aussi des trois patriarches fondamentaux du peuple de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, qui, sous un certain rapport, représentent aussi, chacun par leur histoire propre, les trois personnes de la très sainte Trinité, un seul Dieu. Nous avons encore dans des manifestations de la triunité divine, par exemple le Trisagion, proclamé sans cesse par les séraphins et les chérubins, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu ». Pourquoi « Saint, Saint, Saint » alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Et pourquoi pas 4 fois, 10 fois, 100 fois, mais 3 fois? C'est une affirmation de l'unité et de la triunité divine. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est peut-être moins connu, mais qui est aussi très beau et qu'il n'est pas inutile de savoir, dans ce que les Juifs actuellement utilisent comme leur credo, disons le début de leur credo, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un », il se trouve qu'il y a, disent plusieurs pères, une déclaration de la très sainte Trinité. « Écoute Israël, le Seigneur, hein, notre Dieu, Dieu, et le Seigneur est un. » Alors les Juifs se moquent des chrétiens lorsque l'on dit cela, et ils nous disent que c'est simplement une répétition du sujet dont on parle. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Effectivement, il y a un seul Seigneur qui est un. Oui, mais le problème, alors pour faire un tout petit peu d'apologétique, on pourrait dire que, quitte à se bâtir à inventer une formule de foi, Mahomet a été plus clair que Moïse, sous un certain rapport. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu, là au moins c'est très clair. Il n'y a pas de Dieu, sinon un seul Dieu qui est numériquement un. C'est clair. Est-ce qu'il aura fallu, très chers juifs, est-ce qu'il aurait fallu attendre Mahomet pour avoir un credo satisfaisant qui ne donne pas malheureusement lieu à des interprétations bizarroïdes comme on a pu le voir dans le christianisme, etc. Ou alors Moïse est supérieur à Mahomet, ce que je pense que là on est d'accord, nous sommes tous d'accord, il est supérieur à Mahomet et inspiré par Dieu, il a dit exactement ce qu'il fallait dire, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Père, Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. Voilà le credo des Juifs, du véritable judaïsme, et qu'ils le veuillent ou non, c'est leur credo, et bien sûr, c'est notre credo, je crois en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure le symbole de Saint-Athanase, magnifique pièce liturgique avec les deux dogmes fondamentaux, la triunité divine, quiconque veut être sauvé, doit avant tout tenir la foi catholique, qui est de confesser la triunité divine et la divino-humanité du Messie, mais ça c'est pour une autre fois. Donc la triunité divine, vous voyez mes très chers frères, comme une fois que l'on a reçu la foi de par l'Église, que demandez-vous à l'Église? La foi. Une fois que nous avons reçu la foi, eh bien nous connaissons cette très sainte Trinité, mystère insondable, insoupçonné et au mieux très vaguement entreaperçu, en dehors de la révélation chrétienne, mystère qui pour nous est le béaba du catéchisme, c'est la première chose que les enfants apprennent, nonobstant certains catéchistes modernes, c'est la première chose que les enfants apprennent. Dieu, il y a un seul Dieu, y a-t-il trois dieux? Non, il y a un seul Dieu. Y a-t-il un seul Père, un seul Fils, un seul Saint-Esprit? Oui. Forme-t-il trois dieux? Non. Père, Fils et Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, et c'est le Dieu auquel nous nous adressons au singulier en parlant de Dieu. Mes très chers frères, il y a dans ce dogme quelque chose de magnifique une fois qu'on a la foi. Dieu, un seul Dieu en trois personnes consubstantielles, coéternelles, égales en tout. Et ce sont, une fois qu'on croit cela, une fois qu'on l'a reconnu pour vrai, c'est-à-dire qu'on a reçu la foi, alors, mes très chers frères, que nous dit l'oraison ? Eh bien, Dieu nous donne d'adorer l'unité, d'en adorer l'unité dans la puissance et la majesté. Il n'y a pas à se livrer à des raciocinations sans fin, il faut adorer. Dès que l'on croit en la Très Sainte Trinité, il faut adorer la Très Sainte Trinité, car la Très Sainte Trinité n'est pas un concept, elle est un Dieu, un seul Dieu. Donc la gloire, mes très chers frères, la gloire dont il est question ici, c'est l'éclat de la puissance. Vous voyez, mes très chers frères, la vérité, c'est que s'il est difficile, s'il est impossible à l'homme sans la foi de croire à la très sainte Trinité, il y a quelque chose de peut-être pour le chrétien, de peut-être encore plus difficile à croire, dans la mesure où l'on croit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, est ce Dieu qui a tout créé, en qui tout subsiste, et qui nous a aimés, et qui a envoyé son Fils afin qu'il meure pour nous en expiation et de nos péchés, et qu'il nous envoie son Saint-Esprit, et que nous devenions un avec lui. Il y a quelque chose de très difficile, d'encore plus difficile à croire, et c'est peut-être le dogme de l'inhabitation de la Très Sainte Trinité dans notre âme. Comment, une fois que l'on a compris la majesté, l'unité, la puissance de la Très Sainte Trinité, comment peut-on croire que la Très Sainte Trinité peut habiter dans notre âme ? Alors, mes très chers frères, effectivement, il faut le croire. Mais vous voyez, il est peut-être plus difficile de croire que le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a tout créé, existe. Il est plus difficile de croire qu'il vit dans notre âme que qu'il existe. Et pourtant, les deux sont vrais. Voyez-vous, mes très chers frères, l'état de grâce, car c'est l'état où la Très Sainte Trinité habite dans notre âme, l'état de grâce, on a dit beaucoup de choses durant le siècle dernier, beaucoup de choses qui, sans être absolument fausses, ne sont pas vraies. Il y a eu beaucoup de livres, tout d'un coup, qui se sont intéressés à l'état de grâce. Alors, certains sont de bons livres, Dieu merci, mais d'autres sont de moins bons livres. Disons, ce sont de mauvais livres. C'est-à-dire que ce sont, dans la perspective de la militance, car la militance d'aujourd'hui n'est que le débris, le rejeton dégénéré de l'essor de la militance au XXe siècle, au début du XXe siècle, il se trouve que dans ce contexte délirant de conquête de la modernité, on a dit « prenez conscience, chrétiens, de votre dignité, prenez conscience de la beauté de l'état de grâce », donc chose vraie, ce sont des paroles patristiques, « prenez conscience de la beauté d'une âme en état de grâce », car ce n'est que dans l'état de grâce que vous êtes dans un état de fonctionnalité maximale. C'est-à-dire que si vous voulez véritablement être de bons agents de l'Église, de bons agents du pape, pour conquérir la modernité et la transformer en une super-civilisation chrétienne, il faut absolument que le maximum des chrétiens soit en état de grâce, de telle sorte que la Très Sainte Trinité, agissant par eux et en eux, eh bien, ils puissent mettre à profit cette inhabitation du Père et du Fils et du Saint-Esprit en eux pour conquérir les sciences, les arts, pour faire un cinéma vraiment catholique, pour faire une technologie vraiment catholique, une médecine vraiment catholique, une démocratie vraiment catholique, et puis prenez absolument tout et n'importe quoi, mettez vraiment catholique. C'était le projet de la religion de cette époque-là, et on voit les résultats, quoique, d'une certaine manière, François tutoie les plus grands, etc. Donc on voit que ce projet n'a pas été totalement sans porter des fruits un peu étonnants. On a planté une graine, on s'imaginait qu'elle allait porter des pommes, et en réalité, elle a porté des fruits pourris. Mais en réalité, vous voyez, mes très chers frères, le problème dans tout ça, c'est pas la subversion, c'est pas les francs-macs, etc. C'est le fait qu'on a voulu instrumentaliser Dieu et réduire l'état de grâce à l'état de fonctionnalité maximale du chrétien militant. Mes très chers frères, une fois que nous avons écarté cette erreur, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais enfin, soyons édifiants aujourd'hui. Il faut avoir été en état de grâce, mes très chers frères, pour savoir ce que c'est que l'état de grâce. Alors vous allez dire, mais enfin, c'est quand même le minimum de base de chrétien. Comme dirait l'autre, de grâce, soyez en état de grâce, sinon vous êtes inutile à la cause. Bon. Alors attendez, de quoi parlons-nous? L'état de grâce, ben, si on pose la question à n'importe quel chrétien, qui se prétend tel, aujourd'hui on dit qu'est-ce que c'est l'état de grâce? Eh bien, c'est l'état où tous les péchés ont été pardonnés, c'est-à-dire que c'est l'état dans lequel on est juste après la réception de l'absolution sacramentelle, et il se trouve qu'on se maintient dans cet état tant qu'on ne commet pas de péché mortel, sachant que les péchés véniels, c'est rien du tout, on n'a même pas besoin de les confesser. L'essentiel, c'est de ne pas commettre de péché mortel, et dans la mesure où on se maintient dans cet état, on est en état de grâce. Alors, ce n'est pas totalement faux, sous un certain rapport, soyons justes. Ce n'est pas totalement faux. C'est vrai que le péché mortel, lorsqu'on est en état de grâce, chasse la très sainte Trinité, la présence de la très sainte Trinité de notre cœur. Et il est vrai aussi que l'état de grâce peut être compatible avec un certain nombre de péchés véniels. C'est vrai. Maintenant, il se trouve que l'état de grâce, mes très chers frères, c'est l'état où le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter dans le cœur, dans l'âme. Or, le Fils éternel de Dieu nous a appris quelque chose de fondamental. Il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, et mon Père et moi-même, donc avec le Saint-Esprit, viendrons, nous habiterons avec lui, et ailleurs, il dit, j'entrerai, si quelqu'un, je frappe, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai avec lui et je souperai avec lui. Pour parler le langage même de l'Écriture, qui est un langage qui doit nous humilier par sa familiarité avec nous, l'état de grâce, c'est l'état où Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu, créateur de toutes choses et rédempteur des élus, vient habiter dans notre cœur. Et, d'une façon mystérieuse, souper avec nous. L'état de grâce n'est donc pas un état dans lequel on a la grâce, la très sainte Trinité, et que l'on perd par le premier péché mortel. Vous allez dire, mais vous êtes en train de vous contredire. Attendez. L'état de grâce est l'état d'hospitalité de la très sainte Trinité dans notre âme. La très sainte Trinité, c'est Dieu, c'est Dieu vivant, le Dieu vivant est vrai. C'est en même temps qu'elle est dans notre âme, les chérubins au ciel crient ce trisagion mystérieux, Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Donc envisager l'état de grâce comme étant l'état dans lequel on est tant qu'on n'a pas commis de péché mortel, c'est en quelque sorte profaner l'état de grâce. Ce n'est pas que c'est totalement faux, à strictement parler, légalement parlant, c'est faux. Mais le péché mortel chasse de notre cœur ce Dieu tout-puissant qui, par une condescendance qui s'appelle la charité, c'est-à-dire l'amour, vient non seulement s'y promener, comme il se promenait avec Adam dans le jardin, au commencement, mais vient y habiter, et vient non seulement y habiter comme dans une maison de séjour où il ne vient jamais, ou un roi, un riche ne vient jamais, quoique ça lui appartient, non seulement il y vient, mais il vient y manger, et il vient, c'est la chose la plus intime qu'on puisse faire avec quelqu'un, manger avec lui, et habiter avec nous, et manger avec nous. Quelle horreur, quel manque d'hospitalité divine que le péché mortel. Le péché mortel, que nous regardons comme finalement étant la chose pour laquelle nous avons besoin de nous confesser et revenir en état de grâce, le péché mortel, c'est, si vous permettez cette expression, je rougis presque en disant, c'est un coup de pied au derrière du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne répétez pas cette expression, elle est trop horrible. Là, le péché mortel, c'est l'expulsion du Dieu qui dit lui-même qu'il est charité, du Dieu qui mange avec nous. Lorsque vous avez un ami qui mange avec vous, votre meilleur ami qui mange avec vous. Est-ce qu'à un moment du repas, vous allez lui cracher au visage, lui jeter le plat au visage, le prendre par sa ceinture et le fond de son pantalon, et le jeter avec un grand coup de pied par la porte? Vous allez dire, ben, si je fais ça, ça va plus être mon ami longtemps. Chaque fois que nous péchons mortellement, à supposer que nous étions en état de grâce, nous faisons quelque chose d'infiniment pire avec Dieu. Est-ce que vous croyez que votre ami, dans le fil de la soirée ou le lendemain, vous allez lui passer un coup de fil et vous allez dire, oui, au fait, bon, excuse-moi, bon, je t'ai fichu à la porte, je t'ai craché dessus, je t'ai injurié, J'ai injurié toi et tous tes ancêtres, etc. Mais en réalité, c'est pas. Allez, reviens manger, excuse-moi, je te demande pardon, voilà, je ne le referai plus, etc. Bon, mettons que vous soyez très amis. L'ami revient et vous recommencez. Mettons que cet ami soit vraiment un ami qui soit bon. Mettons que votre meilleur ami soit votre frère de sang, parce que ça ne marche qu'avec des gens de la famille. Mettons qu'ils reviennent encore une troisième fois et que vous recommenciez et que ça se continue pendant quelque temps. Mais vous allez vous aliéner absolument tout le monde. Comment peut-on imaginer? Alors vous allez dire, c'est trop horrible ce que vous dites. Enfin, c'est pas humain, c'est pas le propre d'un chrétien ou d'un gentilhomme. C'est pas d'un homme normal. Chaque fois que nous disons que à la légère, que le péché chasse la très sainte Trinité de notre cœur, mais que, heureusement, l'absolution sacramentelle nous a fait revenir, qu'est-ce que nous croyons? Que la très sainte Trinité, c'est un cadre qui pend un clou, et puis qu'on l'enlève. C'est Dieu lui-même. Nous ne traiterions pas notre meilleur ami, notre frère. Nous ne nous traiterions pas nous-mêmes, si c'était possible, de la manière dont nous traitons la très sainte Trinité, lorsque, je ne dis pas lorsque nous péchons, parce que on ne va pas dire il faut à partir de maintenant il ne faut plus pécher, c'est pas ça que nous disons, mais lorsque, parce que ça fait partie de la progression de la vie chrétienne, on ne peut pas dire maintenant vous arrêtez de pécher parce que c'est trop horrible. Il faut le dire, mais on ne peut pas l'exiger. Il y a un processus. On diminue d'abord les péchés et ensuite on arrive à se maintenir dans Mais il se trouve que lorsque ce n'est pas ça, à la rigueur, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on prend à la légère l'expulsion de la très sainte Trinité et que l'on prend à la légère l'absolution sacramentelle. Vous comprenez pourquoi que dans la discipline traditionnelle, ceux qui se laissent aller au péché d'habitude et qui, d'une certaine manière, trouvent ceci relativement normal et qu'ils ne trouvent pas en eux une très grande contrition, on doit leur différer l'absolution jusqu'à ce qu'ils aient au moins pris conscience de ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de Dieu, et si j'ose dire, ce qu'ils sont en train de faire à Dieu, si cette expression a un sens. Mais elle a un sens. Ne contristez pas le Saint-Esprit, n'expulsez pas Dieu de votre cœur. L'état de grâce, mes très chers frères, on parle tout le temps d'état de grâce, d'état de grâce, état de grâce, état de grâce. Alors c'est très bien, c'est un concept théologique, mais l'état de grâce, en réalité, son contexte véritable, c'est l'état de justice. Et qu'est-ce que l'état de justice? C'est l'état où prévaut la charité. C'est un état de stabilité, nous disent les théologiens, les bons théologiens, c'est un état de stabilité dans l'amour pour Dieu, vérifié par la charité fraternelle, vérifié par le fait que nous aimons tellement Dieu que nous sommes à tout instant très vigilants pour éviter le péché mortel, et le péché mortel, si l'on peut dire, est évité parce que l'on est très vigilant vis-à-vis des péchés véniels. Le péché mortel n'est jamais qu'induit par le péché véniel. Des fois, on pêche mortellement par surprise, c'est un cas particulier. Mais la plupart du temps, les péchés mortels que nous commettons ne sont jamais que la somme de la déviance de tous les péchés, les petits péchés véniels auxquels nous n'avons prêté aucune attention. Nous disons un exemple, nous disons le fait de se mettre en colère contre son frère, c'est le tuer, donc c'est un péché mortel. Oui, mais être désagréable avec lui. Ah oui, mais être désagréable avec lui, c'est un mouvement d'humeur, ce n'est pas un péché mortel, je l'ai lu dans tel manuel théologie. Bon, c'est très bien. Mais être constamment désagréable avec son frère, c'est se mettre en position pour un jour éclater de colère. Donc, la mauvaise humeur, le fait d'être désagréable, le fait d'être bougon avec les gens, c'est quelque chose qui, sous un certain rapport, nous dit la théologie sur le papier, est compatible avec l'état de grâce. Mais est-ce qu'elle est compatible avec un état de justice prolongée? Alors, justice prolongée, un état de justice prolongée, c'est même un pléonasme. L'état de justice, c'est un état où nous sommes justes. On ne peut pas être dans la justice, dans l'injustice, la justice, injustice, injustice. Vous allez dire, mais pourtant, le sacrement de la pénitence n'est pas donné pour les chiens. Alors, je vais vous dire une chose. Prenez n'importe quelle matière, une pierre, même un métal. Mettez-le dans le feu, dans l'eau, dans le feu, dans l'eau, dans le feu, dans l'eau. Vous allez dire, oh, c'est du fer. Regardez si vous n'allez pas détruire une barre de fer, allez voir, vérifier si vous n'allez pas casser une pierre, même la pierre la plus résistante, la pierre réfractaire la plus résistante, vous la chauffez à blanc, vous la jetez dans l'eau, vous la chauffez, vous la jetez dans l'eau, vous la chauffez, vous la mouillez. Ça va casser. Que devient notre âme lorsqu'elle vit dans une alternance accélérée d'état de justice et d'état de grâce, si j'ose dire, même pas d'état de justice, et d'état de péché. Est-ce que vous pensez que ça ne fait pas des lésions à l'âme? Je vous ai dit, mais justement, le sacrement de pénitence, c'est un sacrement médical, bien entendu. Mais la plupart du temps, comme il est administré aujourd'hui, c'est plutôt un emplâtre sur une jambe de bois. Et ça, c'est une autre question. Vous voyez, mes très chers frères, l'état de justice, c'est un état de vie réglé selon les maximes de l'Évangile, normé par la loi de Dieu et entretenu par la charité, charité qui se nourrit de la foi, de la foi théologale que nous avons reçue de l'Église, donc qui se nourrit, qui s'entretient par la prière, par la lecture, par l'oraison, bien entendu, la foi qui se manifeste nécessairement par les œuvres, puisque la foi sans les œuvres est une foi morte. L'état de justice est un état de stabilité dans lequel l'amour vrai pour Dieu, l'amour pas velléitaire mais l'amour réel de Dieu, se manifeste par des œuvres de justice et, comme dit notre Seigneur, des œuvres abondantes de justice. Malheur à celui qui prend à la légère l'état de grâce en disant « l'état de grâce, nous le perdons lorsque nous péchons mortellement, mais heureusement nous le regagnons par le sacrement de pénitence ». Il dit quelque chose de vrai, mais comme il le dit d'une mauvaise façon, cette chose de vrai est un blasphème. C'est comme lorsqu'on jure par le nom de Dieu, est-ce qu'on appelle Dieu par un autre nom? Non, mais c'est un blasphème parce qu'on utilise le nom de Dieu en vain. Eh bien, on dit dire une vérité théologique en vain, si j'ose dire, ou à la légère, c'est blasphémer. L'oraison nous dit que c'est la foi en la très sainte Trinité qui est notre sauvegarde. Car la très sainte Trinité, mes très chers frères, qui est l'objet de notre foi, est en même temps le Dieu vivant et vrai. Nous ne croyons pas à la très sainte Trinité comme les républicains croient à la République. Si les républicains arrêtent de croire à la République, il n'y a plus de République. Si tous les républicains meurent, il n'y a plus de République. L'idée de République reste dans les livres, elle n'existe plus. Elle n'existe plus si tant est que... Et si on détruit les livres, alors tout le monde l'oubliera. Si tout le monde apostasie, la très sainte Trinité demeure inchangée. Si l'Église n'existait plus, je parle de l'Église militante en éclat de voix, ça n'affecterait pas la très sainte Trinité. La très sainte Trinité qui est l'objet de notre foi, mes très chers frères, est en même temps celui, le Dieu qui nous vivifie et qui nous rend vivants. Elle est ce Dieu qui nous a sauvés. Nous passons à notre deuxième point qui nous permettra d'approfondir ce que nous venons de dire un tout petit peu par rapport à Dieu, à ce Dieu qui habite en nous parce qu'il nous aime. Il y a cette en mémoire de cette fête de la très sainte Trinité depuis presque 1000 ans, il y a le premier dimanche de la Pentecôte. Le premier dimanche après la Pentecôte est un réservoir de grâce, de doctrine, de choses magnifiques. On y trouve, mes très chers frères, l'une et peut-être la plus belle oraison de toute l'année. Alors, je ne peux que vous inviter à prendre vos missels et à lire attentivement les textes de la messe du premier dimanche après la Pentecôte, car ce sont des textes absolument merveilleux. Dans l'épître tirée de l'apôtre Saint Jean, qui est très longue et qui est magnifique, comme toute écriture bien sûr, mais spécialement comme Saint Jean, dans l'épître, eh bien, il est dit « Dieu est amour ». Charissimi Deus caritas est. Mais bien aimé, Dieu est la charité. Dieu est charité, Dieu est amour. Voici en quoi l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Pour comprendre au moins un aspect de cette vérité, mes très chers frères, Dieu est amour, nous devons nécessairement méditer sur notre corruption et sur notre mauvaise volonté. Notre corruption et notre mauvaise volonté nous rendent tellement étrangers à l'amour de Dieu qu'elles nous poussent à nous haïr nous-mêmes. Selon cette parole du psaume, celui qui aime le péché déteste son âme, est son âme, déteste son âme. Aimer le péché, aimer le vice, aimer même quelque chose qui fait partie de notre caractère et qui est contraire à la loi de Dieu, c'est se haïr soi-même. Si nous ne haïssons pas cette haine de nous-mêmes qui se manifeste expérimentalement à nous comme un amour de nous-mêmes, qui est défini théologiquement comme un amour désordonné de nous-mêmes, mais qui est en réalité une haine de nous-mêmes, mais que nous prenons pour l'amour de nous-mêmes, si nous haïssons cet amour de nous-mêmes, alors nous pourrons commencer à comprendre comment Dieu nous a aimés. Si nous nous aimons nous-mêmes, d'une certaine manière, comme nous sommes à nous-mêmes notre propre Dieu, un Dieu bien cruel, mais enfin un Dieu quand même, nous allons être indifférents, pour le moins, envers l'amour de Dieu. Si nous voulons comprendre un tout petit peu pour comment Dieu est amour et comment cet amour s'est manifesté envers nous, pour nous, à notre endroit, nous devons commencer par nous haïr nous-mêmes. Celui qui aime, nul ne peut, dit un commentateur, nul ne comprend la profondeur de l'abaissement d'un Dieu qui nous a aimés, d'un Dieu qui vient dans le monde, nul ne comprend la profondeur de l'abaissement d'un Dieu qui vient dans le monde pour nous sauver, que celui qui peut comprendre et la sainteté de Dieu et la corruption du monde. Si l'on dit comme les néo-catholiques que Dieu est venu dans le monde pour faire l'expérience tellement merveilleuse de l'état d'humanité, pour jouer au football, pour manger des bonnes choses, pour être rire avec ses potes, etc. Si Dieu s'est abaissé pour ça, alors évidemment, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait l'expérience. Et puis, comme dit Homère, les dieux sont, j'entendais ça cité par ça par quelqu'un l'autre jour, comme dit Homère, les dieux sont jaloux des hommes parce que les hommes ont une vie courte et une vie trépidante, tandis que les dieux vivent éternellement, donc du coup, ils s'ennuient du haut de l'Olympe. Quelle folie, quel paganisme, quel blasphème. Dieu, infiniment satisfait de sa condition de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit unis dans l'amour qui est Dieu, s'est abaissé dans la personne du Fils jusqu'à venir non seulement toucher du doigt ce Dieu, ce monde déchu et ce monde qu'il a rejeté, mais revêtir la chair de péché pour devenir vraiment homme et accomplir en tant que victime expiatrice, expiatoire, l'expiation nécessitée par la sainteté de Dieu, sans laquelle nul n'aurait jamais pu être sauvé, nul n'aurait jamais pu être réintégré dans l'amitié de Dieu. Quel blasphème que d'oublier le coût de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, et comme c'est une parole que l'on trouve dans la mystique, ce n'est pas pour rire que Dieu nous a aimés. Dieu ne nous a pas aimés que par une tocade, comme on aime, tout d'un coup on s'intéresse à, je ne sais pas, on s'intéresse à diverses choses, et puis on a une tocade, et puis après on cesse d'aimer, donc on laisse tout tomber. Dieu nous a aimés en son Fils, et c'est pour cela que le Fils est descendu du ciel, s'est incarné de la très sainte Vierge Marie, etc. Il est mort, il a souffert, il est mort, il est ensevelu. Il a été rejeté, trahi, non seulement par son peuple, mais même par la plupart de ses disciples. Il a souffert pour l'expiation de nos péchés. Voilà comment, voilà, dit d'une façon très grossière et très balbutiante, quelque chose de vrai sur l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils unique dans le monde, quel amour, afin que nous vivions par lui. Ut vivamus per eum. Afin que nous vivions par lui. Autrefois, nous vivions par nous-mêmes, c'est-à-dire nous étions les marionnettes du démon. Afin que nous vivions par lui. Il faudrait prendre plusieurs années de sermons ininterrompus pour expliquer ce que signifie vivre par lui. Eh bien, mes très chers frères, disons ceci simplement, que cette mort spirituelle qui est la nôtre nativement est contrée par le don du Fils de Dieu. Nous avons fait l'expérience de cet amour prévenant de Dieu qui nous a aimés alors même que nous étions ses ennemis. Et cet amour, dit saint Jean, et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimé le premier et a envoyé son Fils victime de propriation pour nos péchés. L'ingratitude, mes très chers frères, consiste à méconnaître l'amour dont nous avons été prévenus par Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons réconciliés avec lui, et il se trouve que l'ingratitude consiste à considérer tout ceci comme rien, ou même à le mépriser un petit peu ou à y être indifférent. Je parle surtout pour les chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, évidemment, sont logés un peu à une autre enseigne, puisqu'ils sont tout entiers sous le pouvoir du démon. Mais je parle de l'ingratitude des chrétiens, ce qui est bien plus grave. À la rigueur, seuls les chrétiens peuvent être ingrats, puisqu'ils ont connu la grâce, ils ont reçu la grâce. Il suffit d'être baptisé pour avoir reçu la grâce et une marque de cet amour prévenant de Dieu. L'ingratitude de celui qui aime sa propre corruption est infinie, mes très chers frères, si l'homme pouvait faire quelque chose d'infini. Néanmoins, mes très chers frères, il y a un mensonge qui consiste dans la vie chrétienne à dire que nous aimons Dieu et à haïr notre frère. Nous pouvons ou bien être ingrats et être méprisants envers l'amour de Dieu, ou bien nous pouvons être éperdument reconnaissants envers Dieu, mais par notre haine envers notre frère, nous manifestons que nous n'aimons pas véritablement Dieu et que nous n'aimons Dieu que comme quelqu'un qui nous a rendu service à nous parce que nous le valions bien. Si nous aimons notre frère, si nous aimons nos frères, pour l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a aimés, alors nous pouvons véritablement être dans une certaine certitude que nous aimons véritablement Dieu, parce que Dieu d'une manière qui soit à salut, c'est-à-dire d'une manière humble. Dans l'oraison, donc de ce premier dimanche après la Pentecôte, dans l'oraison, nous disons ceci à Dieu. Ô Dieu, qui êtes la force de ceux qui espèrent en vous, montrez-vous propice à nos prières, et puisque la faiblesse de l'homme ne peut rien sans vous, accordez-nous le secours de votre grâce, afin qu'en accomplissant fidèlement votre loi, nous puissions vous être agréables en nos intentions comme en nos actions. Tout d'abord, Deus in te sperantium fortitudo. Deus fortitudo, Dieu, force. Dieu est la force. Dieu est la force. Quand on pense à une force, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser aller à dire la force, etc., comme on voit dans les films de machin dans les étoiles, etc. La force est Dieu. Chaque fois que l'on dit quelque chose qui est en lien avec Dieu, il faut faire très attention, qu'on dit une épithète qui est en lien avec Dieu ou un nom qui est en lien avec Dieu, il faut faire très attention de ne pas l'utiliser en vain, parce que c'est un nom de Dieu. La force, c'est Dieu. Deus fortitudo, c'est la même chose, c'est au nominatif. Deus fortitudo, Dieu qui est la force. Dieu est la force. Il n'y a pas de force dans le monde, il n'y a pas de force dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, sinon Dieu, Dieu lui-même. Je ne dis pas même pas de Dieu, mais Dieu lui-même. Dieu est la force. Pourquoi? Parce qu'il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors, évidemment, on pourrait dire, donc du coup, ça veut dire qu'on se sent retomber comme quelque chose de totalement inerte. À strictement parler, c'est vrai. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Et celui avec qui a le Christ en lui, eh bien, peut dire avec saint Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui vit en moi. D'où l'importance non seulement de l'état de grâce, c'est la moindre des choses, mais du contexte de l'état de grâce qui est l'état de justice. Celui qui est dans l'état de justice, comme nous avons défini plus haut, est dans un état de force véritable. Évidemment, si nous sommes dans un état d'alternance effrénée entre l'état de grâce minimale et l'état de péché mortel, effectivement, la force, ça va être juste la force de se traîner jusqu'au confessionnal, et nous allons perdre de plus en plus cette force. Il se trouve que celui qui est en état de justice, parce que, justement, parce que tout ce que nous avons dit, nous n'allons pas tout le répéter, fait l'expérience de Dieu en tant que force. Or, nous savons, mes très chers frères, que si nous ne faisons pas l'expérience de Dieu en tant que force, c'est que ou bien nous nous croyons assez forts par nous-mêmes, ou bien nous voulons que Dieu fasse les choses à notre place. Et ça, tant l'un que l'autre, c'est très différent, ce sont deux cas de figure très différents, même antithétiques, mais c'est le pélagien, le quiétiste, c'est pas du tout la même chose, mais les deux se trompent. Dieu ne fait pas les choses à notre place, Dieu... On ne peut rien faire sans la force qu'est Dieu lui-même. Dieu est la force. Alors vous allez dire, la force, oui c'est bien, mais moi je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de force de la part de Dieu. Écoutez bien cette oraison. Dieu qui est la force, quoi donc? De ceux qui espèrent en vous. In te sperantium fortitudo. Dieu est la force de ceux qui espèrent en vous. Espérez-vous en Dieu? Non. Ah, donc du coup vous n'expérimenterez jamais la force de Dieu, c'est-à-dire Dieu en tant que force. Sperantium, in te sperantium. Dieu est la force, mais seulement de ceux qui espèrent en lui. C'est-à-dire, Dieu nous prévient par sa grâce, et sa grâce, pour nous fortifier, doit rencontrer en nous l'espérance. Alors vous allez dire, oui, mais s'il ne me donne pas l'espérance, etc. Vous êtes chrétien. Oui, vous êtes baptisé. Pourquoi? Vous êtes baptisé. Oui, vous avez la foi, l'espérance et la charité théologale dans votre cœur. Vous n'en faites pas l'expérience pour une raison ou pour une autre. Elles sont là. Alors vous allez dire, comment est-ce que vous le savez? Vous ne connaissez pas mon cœur. Ce que je sais, c'est que dans votre cœur, c'est-à-dire dans votre âme, il y a un caractère indélébile qui est marqué. Et ce caractère et les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité sont là à titre réel. Alors, à titre virtuel, dans la plupart des chrétiens, malheureusement, mais à titre réel, une virtualité n'est pas une illusion. Ce n'est pas, ce n'est pas une illusion. C'est une chose vraie. La seule chose, évidemment, c'est comme une graine. La graine, virtuellement, si l'on peut dire, c'est un arbre. La seule chose, si la graine n'est pas mise dans le bon terrain, dans le bon terreau, l'arbre ne verra jamais le jour et la graine va finir par mourir. La graine du caractère baptismal ne peut pas être, elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas être enlevée, mais elle peut très bien se retrouver aussi en enfer, ce qui fait que la douleur est encore plus grande. D'une certaine manière, même si elle est déjà très grande, il ne faut pas se dire, il vaut mieux être pas baptisé que c'est terrible quand on n'est pas baptisé, et c'est encore plus terrible quand on est baptisé. Dieu est la force de ceux qui espèrent en lui. C'est-à-dire, ceux qui ne désespèrent pas d'eux-mêmes ne sont pas dans une situation où ils peuvent recevoir la force de Dieu. Parce que espérer en Dieu, c'est désespérer de soi-même, non pas dans le sens de désespoir stérile, mais désespérer de soi-même, ça veut dire être objectivement et paisiblement conscient que de soi-même, on ne peut rien. Alors vous allez dire, mais ça c'est la plupart des chrétiens le reconnaissent. Se croire capable de quelque chose pour soi-même, ne serait-ce que d'un péché qui nous mène à un certain bonheur temporel, c'est ne pas espérer en Dieu. Parce qu'il faut être absolument certain de notre absolue impuissance en tout pour pouvoir être animé de la force même de Dieu. Il y aurait bien des choses à dire, mais nous avançons un petit peu parce que cette oraison est assez longue et elle est très très belle. Nous disons simplement une chose, c'est que, mes très chers frères, ceux qui espèrent en Dieu sont ceux qui ont conscience qu'ils sont identiques, qui ont été identiques jusque-là, avec le vieil homme. Souvent, cette doctrine du vieil homme peut nous paraître un peu artificielle. Et nous, le vieil homme, évidemment, comme nous l'enseignent les pères, le vieil homme n'est autre que nous-mêmes. Ce n'est pas, si c'était un démon, si on pouvait chasser le vieil homme comme on chasse un démon, déjà chasser le démon c'est difficile, c'est pas évident. Mais il y a des formules, il y a des choses, et puis avec l'aide de Dieu et les formules de l'Église, on peut chasser le démon avec des exercices. Pourquoi ne peut-on pas chasser le vieil homme avec des exorcismes? C'est parce que ce vieil homme est identique à nous-mêmes. Le vieil homme est aux chrétiens ce que la gangue de scorie est au minerai. Le minerai tel qu'il est arraché aux entrailles de la terre, arrive rempli d'impureté. Le minerai tel quel, c'est un minerai, mettons, un minerai d'or. C'est véritablement de l'or. Donc, il est l'objet de toutes les convoitises de la part des voleurs, etc. D'accord. Mais c'est une chose que d'être convoité par un voleur, et c'en est une autre que d'être utilisable par un artisan, un orfèvre. Si l'orfèvre veut utiliser l'or, il ne peut pas prendre la pépite et commencer à taper dessus. Et pourquoi? Parce qu'il va faire voler des morceaux de pierre, des morceaux de terre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'or soit fondu dans le creuset. Le creuset, qu'est-ce que c'est? C'est un gobelet en terre réfractaire que l'on met au plus profond de la fournaise. Et là, que se passe-t-il? Le métal se met à se fondre. Et en fondant, il échappe à la gangue qui est la sienne, qui est la gangue composée donc de terre, et surtout de rochers, de toutes sortes de choses tout à fait inintéressantes et sans aucune valeur. Tant que le métal est amalgamé, si l'on peut dire, même si c'est pas tout à fait le mot, mais il est associé aux scories, c'est quelque chose qui en soi a de la valeur, mais qui ne peut pas avoir de la valeur pour l'artisan. L'artisan ne peut rien en faire. Maintenant, lorsqu'il commence à fondre, vous avez compris qu'il devient quelque chose d'une valeur encore plus grande, non pas qu'il n'avait pas de valeur jusque-là, parce qu'il était, c'était un baptisé, mais c'était un baptisé amalgamé au vieil homme. Dans la mesure où la charité, où l'amour de Dieu, ce feu dévorant, commence à embraser notre cœur, nous commençons à nous dissocier du vieil homme. Nous commençons à prendre de la distance vis-à-vis du vieil homme, et nous commençons à nous rendre compte qu'il y avait des éléments en nous jusque-là qui étaient nous, mais qui n'était pas nous. La pépite d'or prend conscience que, depuis la fondation du monde, elle avait ce caillou incrusté en elle. Elle avait, depuis 6000 ans, elle s'imaginait eh bien, que ce caillou faisait partie d'elle. Une fois plongée mis dans le creuset et dit dans la fournaise, elle se rend enfin compte que ce caillou était un élément étranger et qui n'était pas, qui n'avait rien à voir avec l'or. Et lorsque le minerai est entièrement fondu et qu'il est donné à l'artisan, effectivement, lorsqu'il est transformé en une couronne royale dans laquelle sont enchâssées des pierres précieuses, etc., et qu'il se retrouve sur la tête d'un empereur ou d'un roi, effectivement, cette petite pépite qui est dans la masse d'or se dit « Mais quel insensé j'étais d'avoir cru pendant si longtemps que les scories faisaient partie de ma nature !» Mettez des scories sur la tête d'un roi, ça s'appelle plutôt se moquer du monde. Vous voyez, mettez cet or qui a été extrait, qui a été séparé de ces scories, vous l'honorez et vous rendez gloire à la majesté royale. Donc vous voyez, mes très chers frères, nous ne pouvons espérer en Dieu que dans la mesure où nous désespérons de nous-mêmes. Si nous nous haïssons nous-mêmes, alors nous acheminons vers l'expérience de la force divine. Si nous avons, d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, de la complaisance envers nous-mêmes, alors, eh bien, mes très chers frères, nous avons une certaine force, ne serait-ce que la force d'inertie de ne pas vouloir la force de Dieu, nous avons une certaine force, et il se trouve que nous aimons nos scories, nous sommes incapables d'être utilisés par le divin orfèvre, le divin artisan. Deus in te esperantium fortitudo, ô Dieu qui êtes la force de ceux qui espèrent en vous. Adesto propitius invocationibus nostris. Qu'est-ce que ça signifie? Montrez-vous propice dans l'abstrait, comme ça, montrez-vous propice parce que votre devoir, votre métier de Dieu, c'est d'être propice. Non. Montrez-vous adesto propitius, donc soyez, montrez-vous propice, oui. Invocationibus nostris. Nous étions, attention, nous étions des gens qui n'espéraient pas en eux-mêmes, ou plutôt qui espéraient en Dieu, et maintenant nous sommes des gens qui faisons monter vers Dieu sans cesse des invocations, invocationibus nostris. C'est une chose que de désespérer de ses forces, c'est une chose de dire effectivement je m'aperçois que sans le Christ je ne peux rien faire, je suis une ordure, etc. Maintenant c'en est une autre que de crier à Dieu, de faire monter à Dieu une invocation, des invocations, mes très chers frères, des invocations. Ce n'est pas difficile, il suffit de dire ce que nous sommes. Seigneur, vous voyez que je suis sans force. Seigneur, vous voyez que je suis mauvais. Il s'agit simplement de se regarder dans une glace et de se décrire. Voilà le fond des invocations que nous devons faire monter à Dieu. Si nous ne voulons pas faire monter ces invocations à Dieu, mes très chers frères, c'est que nous estimons aimables en nous-mêmes, et Dieu donc, l'amour de Dieu, nous nous en contrefichons puisque nous nous aimons nous-mêmes, sachant que, effectivement, cet amour de nous-mêmes est un amour qui est en réalité une haine de nous-mêmes, puisque nous nous détruisons nous-mêmes et nous nous préparons une éternité malheureuse. Invocationibus nostris, à nos prières, montrez-vous propice à nos invocations. On ne peut, et c'est la chose la plus facile que d'invoquer Dieu, il suffit de faire l'état des lieux de notre misère, mes très chers frères. Montrez-vous propice à nos invocations. Et cuias in te nihil potest mortalis infirmitas, qu'est-ce que ça signifie? Et puisque c'est un état de fait, et puisque la faiblesse du mortel ne peut rien sans vous, et cuia, voyez mes très chers frères, et parce que c'est une loi de la nature, c'est une évidence expérimentale, et parce que sans vous, la faiblesse, l'infirmité du mortel, c'est une des choses, une des expressions les plus belles et les plus tristes en même temps pour décrire l'homme, l'infirmité du mortel. L'infirmité, mortalis infirmitas, l'infirmité du mortel. Non seulement nous sommes mortels à cause de la chute, mais en plus nous sommes infirmes. Vous voyez mes très chers frères, nous sommes infirmes, c'est-à-dire nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres forces. Et puisque c'est un état de fait, puisque vous le savez, notre Dieu, que sans vous, l'infirmité du mortel ne peut rien, presta auxilium gratiae tuae, accordez-nous le secours de votre grâce. Accordez-nous tout simplement le secours de votre grâce. Pourquoi donc? Accordez-nous le secours de votre grâce. Nous demandons à Dieu, l'objet même de nos supplications, c'est, nous disons à Dieu, regardez comme je ne peux rien, donnez-moi votre grâce. Vous allez dire, il se trouve que j'ai déjà fait l'expérience d'aller jusque-là, je n'ai rien reçu. Oui, mais attendez, parce que l'oraison n'est pas terminée. Presta auxilium gratiae tuae. Parce que nous ne pouvons rien sans vous, donnez-nous votre grâce, afin que quoi ? Vous voyez, bien souvent, nous disons, Seigneur, donnez-moi votre grâce. Dieu fait un mouvement pour nous donner sa grâce, et nous ne nous rendons pas compte qu'il nous donne sa grâce. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas quoi en faire. Comme disait un commentateur, la grâce de Dieu, c'est bien, mais pourquoi ? Pourquoi en faire ? Pour en faire quoi ? Eh bien, l'oraison nous le dit. Elle le met dans notre bouche même, pour que nous le prions à Dieu. Accordez-nous votre grâce, afin qu'en accomplissant, ut exsequendis mandatis tuis, Et voluntate tibi et actione placeamus, afin que, en accomplissant sérieusement vos commandements, nous puissions vous plaire tant en volonté, en désir qu'en action. Mes très chers frères, qu'est-ce que nous demandons là? C'est là où nous touchons du doigt la possibilité d'être exaucé. Attention, écoutez bien. Puisque nous ne pouvons rien sans lui, accordez-nous votre grâce, afin que, en mettant en pratique vos commandements, quelle est notre part dans tout cela? Mettre en pratique les commandements. Alors vous allez dire, oui, mais c'est un cercle vicieux. Si je lui demande la grâce, c'est que je n'ai pas encore la grâce, donc je ne peux pas mettre en... Vous êtes baptisé ou non? Oui. Donc vous avez reçu un certain nombre de choses que vous n'aviez pas auparavant. Vous ne pouvez pas raisonner comme un païen non baptisé, qui d'ailleurs ne raisonne pas comme vous, puisqu'il n'étant pas baptisé, n'étant pas chrétien, il ne connaît pas la doctrine chrétienne. Nous sommes baptisés. C'est-à-dire nous avons reçu le gage majeur, et le gage unique en quelque sorte, de l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire que si Dieu ne nous aimait pas, nous ne serions pas baptisés, ou en tout cas pas encore. Enfin, c'est-à-dire dans l'absolu, si Dieu ne nous avait pas aimés, il ne nous aurait pas fait baptiser. Nous sommes baptisés, donc Dieu nous a aimés. À partir de ce moment-là, nous pouvons et nous devons commencer à correspondre à sa grâce. Nous le pouvons parce que nous avons déjà reçu la grâce qui fait les chrétiens. Et qu'est-ce que nous devons faire? Des grandes choses? Non. Exequendis mandatis tuis. En étant fidèle aux commandements. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire les 10 commandements, les grands... Effectivement, nous revenons toujours. Dans quel état êtes-vous? Dans quel état? Je suis dans tel et tel état. Eh bien, accomplissez fidèlement les commandements relatifs à votre état. De telle sorte que, en accomplissant fidèlement, vous puissiez plaire à Dieu par cet accroissement de grâce que vous recevrez, dont le tout forme la force de Dieu qui agit par l'intermédiaire de vous, puisque la force, comme son nom, enfin, comme le concept l'indique, la force doit être la force de quelque chose. Il ne peut pas y avoir une force à l'extérieur. Je ne pense pas que ça soit conceptualisable, une force qui n'est pas la force de quelque chose. Si Dieu est la force, Dieu est la force de ceux qui espèrent en lui. Il est la force de ceux qui mettent, des baptisés, dont des chrétiens, qui mettent en pratique les commandements, c'est-à-dire qu'ils sont fidèles. Alors vous allez dire, oui, mais je sens que c'est presque absurde d'obéir aux commandements de Dieu, puisque je ne me sens pas d'amour de Dieu, etc. Tenez-vous-en à l'écorce, si l'on peut dire, de votre état. Vous êtes une mère de famille, vous êtes lassée, vous ne faites plus l'expérience de l'amour de Dieu, etc. Élevez bien vos enfants, occupez-vous de votre mari, occupez-vous de la tenue du ménage. Vous voyez, vous êtes un père de famille, vous êtes là, vous êtes fatigué, vous êtes la foi des éclipses en vous. Que faire? Soyez assuré les devoirs de votre état. Vous êtes un prêtre, vous êtes fatigué, vous êtes découragé, etc. Dites la messe avec une grande dévotion, une grande piété. Occupez-vous fidèlement, occupez-vous avec amour et avec attention des gens qui viennent à vous, et vous verrez que vous retrouverez cette force. Car le simple fait de s'appliquer à ces commandements de Dieu, eh bien, montre que nous avons déjà un fond qui procède de l'amour de Dieu. Un fond de force, je veux dire, qui procède que de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de l'amour dont Dieu nous a aimés. Il y aura encore bien des choses à dire, mes très chers frères, mais il faut simplement les mettre en pratique. Et nous terminons par notre troisième point. Qui sera simplement l'énoncé d'un certain nombre de maximes de l'Évangile. Bienheureux ceux qui peuvent les écouter sans s'en moquer. Autrefois, on pourrait dire sans se révolter contre elles. Aujourd'hui, je dirais plutôt sans s'en moquer. Et nous terminerons par juste un tout petit commentaire. C'est l'Évangile, tout simplement l'Évangile de Saint-Luc, selon Saint-Luc, du premier dimanche après la Pentecôte. Jésus dit à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. Donnez et on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure pressée, entassée et qui débordera. Car on se servira pour vous de la même mesure dont vous vous serez servi pour les autres. » Il leur faisait aussi cette comparaison. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Tous deux ne tomberont-ils pas dans la fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple sera parfait s'il est comme son maître. Pourquoi vois-tu un fétu dans l'œil de ton frère sans apercevoir la poutre qui est dans le tien? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter le fétu que tu as dans l'œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, ôte d'abord la poutre qui est dans l'œil, ton œil à toi, et après cela, tu verras clair pour enlever le fétu de l'œil de ton frère. Mes très chers frères, encore une fois, bienheureux ceux qui ne méprisent pas ces maximes, mais qui vont au-delà de leur petite idée qu'ils se font du christianisme. Si vous vous dites, oui, mais si tout le monde fait ça, alors il n'y a plus de justice, il n'y a plus, tout le monde, on cesse de marcher dessus. C'est une petite idée que vous avez du christianisme, vous n'avez pas compris le christianisme. Si vous dites, oui, mais si on fait ça, alors du coup, les bons vont souffrir et les méchants vont être encouragés. Regardez, ne jugez point, si je suis un juge et que je dois juger des criminels, alors je ne peux pas être chrétien. Mes très chers frères, vous savez très bien que vous abusez de la patience du bon Dieu. Vous savez très bien que ce n'est pas cela que cela dit par ailleurs, puisque ça dit toutes sortes d'autres choses aussi par ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, mes très chers frères, que ces maximes de l'Évangile, particulièrement celles d'aujourd'hui, celles de ce dimanche, doivent nous faire de nous des suppliants. Nous devons supplier Dieu en disant, Seigneur, vous voyez combien je juge mon frère et que je ne refuse de me juger moi-même. Vous voyez combien, bien souvent, eh bien, je veux guider les gens dans la voie de la vérité alors que moi-même j'erre totalement. Vous voyez combien, alors que vous m'avez fait miséricorde, je suis dur et intransigeant envers mon frère qui a quelques peccadilles contre moi. Venez à mon secours, puisque vous savez que l'humaine mortalité ne peut rien. La faiblesse humaine ne peut rien. Soyez vous-même ma force, Seigneur, et donnez-moi de recevoir votre force dans l'état où je peux recevoir votre force, c'est-à-dire dans la pratique de vos commandements. Vos commandements ne sont pas, comme vous l'indiquez vous-même dans l'Écriture, vos commandements ne sont pas inaccessibles. Ces commandements correspondent à la nature humaine. Ils correspondent à un devoir donné. Donnez-moi de faire, d'accomplir ces commandements, et immédiatement, je ferai l'expérience de vous en tant que force, mais donnez-moi de me défier de moi-même. Toute autre attitude, mes très chers frères, toute autre attitude que celle-là est l'attitude qui mène à la ruine. Combien y a-t-il de chrétiens en état de grâce, mes très chers frères? Il n'y avait même pas 10 justes à Sodome, à l'époque où Lot y habitait avec sa famille. Je ne pense pas qu'il y en ait plus, beaucoup plus, aujourd'hui dans le monde. Si la grâce, mes très chers frères, si la grâce de confesser la très sainte Trinité nous a été donnée, puisque nous sommes chrétiens par le baptême, demandons encore que nous devenions des temples de cette divinité vivifiante, et sachons que le baptême a fait de nous des réceptacles, des temples, des habitations pour cette très sainte Trinité qui nous aime et qui ne demande qu'à nous exaucer dans la mesure où elle nous trouve suppliants et conscients de notre faiblesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.